France Inter. 10.
Mercredi 27 mars, bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Inter. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la semaine en 4 jours expérimentée dans les ministères.
Une nouvelle forme d'organisation du travail voulue par le Premier ministre qui tient aujourd'hui un séminaire où il sera aussi question de l'assurance chômage. C'est l'image de la nuit, l'accolade en pleine forêt amazonienne entre Emmanuel Macron et le chef Raoni, décoré de la Légion d'honneur. Nous sommes sur place. À Baltimore, impact économique majeur après l'effondrement du pont et puis le cacao, jamais aussi cher, on vous explique pourquoi.
Et nos invités aujourd'hui avec vous, bonjour Sonia De Villers à 7h50.
Bonjour à tous, Roch Olivier Maistre, président de l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel. Comment contrôlera-t-il à l'avenir le pluralisme de nos antennes de télévision et de radio? Le temps de parole des différents courants d'opinion. Le Conseil d'État vient de lâcher une décision en la matière qui fait l'effet d'un séisme. Roch Olivier Maistre nous explique à 7h50.
À tout à l'heure, 8h20, le grand entretien. Entretien de la matinale avec David Lisnard, maire Les Républicains de Nice et président de Cannes et président de l'Association des maires de France. Il publie les leçons de Pompidou aux éditions de l'Observatoire. 9h20, Léa Salamé reçoit le réalisateur Teddy Lucie Modeste.
France Inter.
Faire sa semaine de travail en 4 jours, ce sera peut-être bientôt la norme pour tous les agents des ministères. Alors que Matignon réunit aujourd'hui un séminaire gouvernemental sur le travail, voilà cette nouvelle organisation évoquée par le Premier ministre en janvier, mise en musique par une note du ministère de la fonction publique. L'expérimentation sur la base du volontariat débutera au plus tard en septembre. Elle va durer au moins un an à effectif constant, sans réduction du temps de travail. Ce sera aussi bien à Paris que dans les services des ministères hors de la capitale. Les administrations pourront tester la semaine en 4 jours, en 4 jours et demi ou une alternance de semaines de 4 puis de 5 jours. À Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, la commune propose déjà à ses employés d'aménager leur temps de travail. Reportage de Manon Derdevey.
Travailler 4 jours et demi par semaine, c'est la nouvelle organisation choisie par Virginie Marais, assistante au service des dynamiques locales de la mairie de Neuilly-sur-Marne.
Pour un côté pratique, pour pouvoir m'organiser sur mes rendez-vous et profiter aussi d'un temps libre, donc une après-midi complète. C'est un bon compromis. J'ai choisi de commencer plus tôt ou d'écourter un petit peu la pause du midi, mais pas spécialement de finir plus tard. Voilà, je suis bien contente le mercredi midi de dire à demain.
Pour passer à la semaine en 4 jours ou 4 jours et demi, le gouvernement pose plusieurs conditions. D'abord, les agents doivent impérativement continuer à assurer le même volume horaire de travail hebdomadaire, une expérimentation basée sur le volontariat et qui ne doit pas altérer la qualité du service public. À Neuilly-sur-Marne, 50 agents sur les 300 éligibles se sont lancés dans cette expérimentation. Son maire, Zartosht Bakhtiari, tire des enseignements plutôt positifs.
On essaie d'adapter un peu tous les postes. Alors, il n'y a pas que des catégories A, donc que les cadres. Toutes les catégories sont éligibles. Des agents qui, aujourd'hui, veulent mieux concilier leur vie perso avec la vie professionnelle. Nous, ça a un avantage direct, c'est que ça nous permet à nous, collectivités, d'être plus attractifs.
Selon une enquête réalisée par le gouvernement auprès de 110 000 agents publics, 73% d'entre eux se disent prêts à moduler leur temps de travail.
Les enseignants ou tous ceux qui ont des horaires spéciaux ne seront pas concernés par cette expérimentation dans les ministères. La semaine en 4 jours est déjà testée aussi dans le privé, y compris dans la grande distribution. Ce sera donc l'un des thèmes du séminaire consacré au travail ce matin autour de Gabriel Attal, qui devrait surtout chercher où faire des économies. Dans le viseur de Matignon, l'assurance chômage. Bercy ne cesse de réclamer une réduction de la durée d'indemnisation. Le Premier ministre s'exprimera ce soir aux 20h de TF1. Et pendant ce temps, loin des salons parisiens et des dorures des ministères, Emmanuel Macron, en pleine forêt amazonienne, a décoré hier soir de la Légion d'honneur l'icône planétaire de la défense de l'Amazonie, le cacique Raoni, sous les yeux de Maxence Lambrec.
Sous un chapiteau couvert de feuilles de palmier, dans la moiteur de l'île de Combou, Emmanuel Macron et Lula, chemise blanche, les bras levés, affichent leur amitié dans cette nature exubérante. Le Brésilien prend lui-même des photos, le Français savoure.
Seigneur Emmanuel Macron.
Loin de l'Ukraine, de Gaza, du Mercosur, des points de tension entre eux, ils se veulent défenseurs de la planète. Des petits poussins jaunes se faufilent entre les caméras, les moustiques s'en donnent à cœur joie.
Je vais maintenant te décorer.
Le cacique Raoni, tongue, coiffe de plumes jaunes sur la tête, reçoit la Légion d'honneur.
Je voulais te dire, nous te disons tous, Naim Kouré. Raoni, merci. Pour ton œuvre, ton combat à la sable, pour toute l'Amazonie et ses peuples autochtones.
Ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Embrassade, accolade, Raoni se saisit du micro.
Lula.
Je considère Lula comme mon frère, Macron comme mon fils. Il les appelle à continuer le travail. Le cacique demande du soutien pour obtenir le Nobel de la paix. Seul bémol à cette mise en scène exceptionnelle au pied de l'arbre de vie,
Soumaouma.
Le bourdonnement des groupes électrogènes pour la sono, le wifi, à l'image de cette écologie très pragmatique des deux côtés de l'Atlantique. Raoni appelle Lula à suspendre un immense projet ferroviaire. Ici, au large de Belém, où se tiendra la COP30 dans 18 mois, il soutient un grand projet pétrolier offshore près de l'estuaire du fleuve Amazon.
Maxence Lambrec, envoyé spécial de France Inter au Brésil. Les deux présidents ont annoncé aussi un programme d'1 milliard d'euros d'investissement public et privé sur 4 ans pour l'Amazonie brésilienne et guyanaise. Le voyage officiel d'Emmanuel Macron se poursuit aujourd'hui sur la base navale d'Itaguaï avant Brasilia demain. Et les sujets qui fâchent, comme le Mercosur, l'accord de libre-échange que Paris bloque sur fond de crise agricole. En revanche, pour le CETA, ce traité de libre-échange avec le Canada qui vient d'être rejeté par le Sénat, le gouvernement fait le choix de ne pas le transmettre à l'Assemblée nationale avant les élections européennes. La ratification risquait d'y être également rejetée.
Il est 7h06 à Baltimore, aux États-Unis. Les recherches sont suspendues.
Après l'effondrement du pont hier, les 6 personnes disparues sont présumées mortes. Elles sont tombées dans l'eau lorsque le pont autoroutier s'est disloqué dans la rivière, heurté par un porte-container qui a pourtant jeté les ancres quand il a compris qu'il avait un problème de propulsion. Les débris du pont empruntés chaque jour par 34 000 voitures bloquent désormais le port de Baltimore, avec un impact économique majeur, Sébastien Paour.
Joe Biden le résume d'une phrase, le port de Baltimore est l'une des plus grandes plaques tournantes maritimes des États-Unis. 1 100 000 conteneurs chargés ou déchargés l'an dernier, plus de 52 millions de tonnes de marchandises étrangères y sont arrivées en 2023 pour plus de 80 milliards de dollars. Il y a donc urgence à le rendre de nouveau accessible pour le président américain en reconstruisant le pont. J'ai l'intention de faire en sorte que le gouvernement fédéral prenne en charge la totalité du coût de la reconstruction du pont. Importation de sucre, exportation de charbon, le port de Baltimore est surtout le port américain qui voit passer le plus de voitures neuves, plus de 800 000 l'an dernier, comme le rappelle le secrétaire au transport, Pete Buttigieg. Le port de Baltimore est celui qui traite le plus de véhicules. Il y a aussi le trafic de conteneurs, le trafic de vrac. Il n'y a aucun doute que ça aura un impact majeur et prolongé sur les chaînes d'approvisionnement, compte tenu de l'importance de ce port, non seulement pour la région de Baltimore, mais aussi pour l'ensemble de l'économie des États-Unis. Plus de 15 000 emplois dépendent directement du port de Baltimore, auquel il faut ajouter près de 140 000 emplois indirects. Baltimore, Sébastien Paour, France Inter.
Encore d'intenses bombardements cette nuit sur le sud de la bande de Gaza, malgré un appel international au cessez-le-feu. Il y a des morts dans ces nouvelles frappes, selon le Hamas. En Ukraine, il y a 10 ans, la Russie envoyait ses mercenaires en Crimée. En quelques semaines, le territoire était annexé au mépris de tout droit international. Première étape avant l'invasion du pays il y a 2 ans. Occupée depuis 10 ans, la Crimée se retrouve donc au cœur du conflit actuel. Notre correspondant en Ukraine, Camille Magnard.
En 10 années d'occupation russe, c'est peu dire que la Crimée a changé, reconnaît Refat Choubarov. Il préside l'Assemblée représentative des Tatars de Crimée, première victime des répressions depuis 2014.
Les enfants là-bas ont vécu la plus grande partie de leur jeunesse sous la propagande russe. Et la Russie a aussi fait venir 1 million de ses citoyens en Crimée. Ce sera un gros problème pour nous de les chasser.
Dans le même temps, près d'un quart des Tatars de Crimée ont été contraints à l'exil ailleurs en Ukraine. Pour ceux qui sont restés, Tatars ou Ukrainiens ethniques, le danger est permanent. Volodymyr Pritula le sait bien, lui qui dirige depuis Kiev un média en ligne dont plusieurs journalistes en Crimée ont été arrêtés ou emprisonnés.
Il y a ceux qui ne veulent pas être mobilisés par les Russes, ceux qui redoutent la répression et les autres qui craignent les bombardements ukrainiens. Tous comprennent que la Crimée n'est plus le paradis qu'elle était jusqu'en 2014. Aujourd'hui, c'est avant tout un endroit dangereux.
Ces derniers jours, l'Ukraine multiplie ses frappes sur des positions russes en Crimée. La Russie réplique en lançant des missiles balistiques depuis la péninsule. Plus la guerre dure et plus il semble clair que c'est bien là, en Crimée, que se jouera son dénouement.
Camille Magnard en Ukraine pour France Inter.
Il est 7h10, une tonne de cacao coûte désormais plus cher qu'une tonne de cuivre.
Et oui, la fève de cacao vient d'atteindre un niveau historique à New York à quelques jours de Pâques. 10 000 dollars la tonne hier après-midi. Alors comment expliquer cette envolée? Et nos chocolats de Pâques vont-ils nous coûter plus cher? explication signée Sophie Ovigne.
La hausse est historique, le prix du cacao a triplé en un an. Il faut dire que la série noire ne s'arrête plus. Il y a eu des canicules hors normes dans les pays producteurs de fèves, Côte d'Ivoire, Ghana, des déluges de pluie, des maladies sur les cacaoyers, probablement aussi un manque d'investissement pour renouveler les plantations. À quoi il faut ajouter une forte inflation sur le sucre et conséquence, le prix de notre chocolat en rayon a commencé à grimper d'un peu plus de 10% l'an dernier, puis encore de 5% au début de l'année, par exemple chez Lindt. Les œufs de Pâques n'y échappent pas, ils sont un peu plus chers cette année, 10 à 20 centimes par cloche ou par lapin, mais les experts prédisent bien pire pour Noël. C'est à ce moment-là, 6 à 9 mois plus tard, que les hausses vont se faire réellement sentir sur les friandises. Aux États-Unis, pour maîtriser les coûts, certains grands groupes, fabricants de Kit Kat ou de Mars, en viennent à réduire la part de cacao dans leur sucrerie. Le chocolat pourrait devenir un produit de luxe.
C'est aujourd'hui que Casino change de main. Il quitte celle de Jean-Charles Naouri qui dirigeait le groupe depuis 20 ans pour rejoindre celle des repreneurs menée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Une réunion du nouveau conseil d'administration est prévue ce soir. Il s'est inspiré de son propre vécu pour raconter dans un film l'histoire d'un professeur accusé de harcèlement par une collégienne et menacé de mort par sa famille. La sortie aujourd'hui au cinéma de Pas de vague du réalisateur Teddy Lucie Modeste, coécrit avec Audrey Diwan. Un film, Amélie Perrier, traversé par les inquiétudes du monde enseignant et la vague MeToo.
Dans ce film sur l'école, monté comme un thriller, le prof, joué par François Civil, est accusé d'avoir voulu séduire Leslie, une collégienne timide.
Par exemple, avec cette nouvelle coiffure, Leslie est particulièrement en beauté aujourd'hui.
Qu'est-ce que je dois faire, moi ?
Quand elle dénonce les faits, son frère menace l'enseignant et l'attend à la sortie du collège.
Il se comporte mal avec ma sœur, vous trouvez ça normal ?
Le cinéaste raconte l'inaction de l'éducation nationale et le manque de soutien du principal du collège.
Mais qui va te protéger ? Ton directeur ? Ton école, là, le rectorat qui répond même pas au téléphone ?
Et si le propos est en phase avec les inquiétudes actuelles du monde enseignant, il l'est moins avec la vague MeToo. Là, il est question d'un homme accusé, et celle qui a tort, qui dit faux, c'est la jeune fille. Ce point de vue a mis en colère quelques voix féministes sur les réseaux sociaux, à l'image de l'humoriste Camille Giry, 380 000 followers avec sa complice Justine sur Instagram.
Sortir ça en 2024, quand on essaye, mais bec et ongle, de faire entendre nos voix, ça me rend barge.
C'est davantage le moment d'écouter la parole des victimes que de pointer du doigt de prétendues fausses accusations, disent-elles. Surtout qu'ici, le réalisateur assume qu'il parle de son histoire, racontée de son point de vue, et jamais dans le film, il ne doute ou ne se remet en question dans sa manière d'être avec les élèves.
Et je vous rappelle que Teddy Lucie Modeste est l'invité de Léa Salamé tout à l'heure à 9h20. Ils ont fini par renverser le score. Les Bleus s'imposent hier soir 3-2 contre le Chili à Marseille, match amical avant l'Euro de football en juin prochain, pour lequel l'Ukraine a arraché sa qualification hier soir. La Pologne rejoint le groupe de la France, et puis dernier billet décroché par la Géorgie qui disputera le premier Euro de son histoire. Enfin, il a marqué l'art contemporain de ses œuvres monumentales faites de plaques de tôle aux couleurs rouilles. La mort de l'une des figures artistiques majeures des dernières décennies, l'artiste américain Richard Serra, est mort à 85 ans. Né à San Francisco, formé à Paris, il avait rejoint New York dans le bouillonnement artistique des années 60 et sera exposé dans les plus grands musées du monde.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le Zoom, 3e épisode de notre série au Rwanda avant les commémorations du génocide, ce matin avec une survivante.